La vie en rose, oui, mais pas que. Des émissions informatives et réflexives pour mieux vivre dans son couple et sa famille.
Je comprends de quelle maladie parle la psychologue. C'est la maladie de ceux qui n'ont pas gagné. Ce sont leurs propres peurs qu'ils essaient de m'inoculer, comme un vaccin du mal. Je proteste. Il y a quand même des gens qui ont survécu. Je n'ai gagné que 18 millions. Et ceux qui ont gagné 100, 50, même 30 millions. Justement, me répond la psychologue d'un air mystérieux. Justement. Alors, seulement maintenant, j'accepte un café. Un Livato, je crois. Ou un Livatino, peut-être. Onctueux, en tout cas. Avec un sucre, merci. Il y a beaucoup de suicides, me dit-elle. Beaucoup, beaucoup de dépression, de divorce, de haine et de drame. On a vu des coups de couteau, des blessures aux pommeaux de douche, des brûlures au but à gaz, des familles déchirées, anéanties, des belles filles trompeuses, des gendres alcooliques, des contrats pour éliminer quelqu'un. Oui, comme dans les mauvais films. J'ai eu un beau-père qui a promis 1 500 € à celui qui éliminerait sa femme. Elle avait gagné un peu moins de 70 000 €. Un gendre qui a coupé 2 phalanges pour avoir un code de carte bleue. Des fausses signatures, des fausses écritures. L'argent rend fou, Madame Gerbette. Il est à l'origine de 4 crimes sur 5. D'une dépression sur 2. Je n'ai pas de conseils à vous donner, conclut-elle. Seulement cette information. Nous avons une cellule de soutien psychologique, si vous le souhaitez. Elle repose sa tasse de café dans laquelle elle n'a pas trempé ses lèvres, Daisy Duquienne. « Vous l'avez annoncé à vos proches ?»«
Non, réponds-je. »«
C'est parfait, » dit-elle. « Nous pouvons vous aider à le leur dire. Trouvez les mots pour minimiser le choc. Parce que ça sera un choc, vous verrez. »« Vous avez des enfants ?»
J'opine.
« Eh bien, ils ne vous verront plus seulement comme une mère, mais comme une mère riche, et ils voudront leur part. »« Et votre mari ?» Peut-être a-t-il un travail modeste. Eh bien, il va vouloir arrêter de travailler, s'occuper de votre fortune. Je dis bien votre fortune, parce que désormais, elle sera à lui, comme à vous, puisqu'il vous aime. Ah ça, oui, il va vous le dire qu'il vous aime. Dans les jours et les mois qui viennent, il va vous offrir des fleurs. Je suis allergique, la coupé-je. Des chocolats. Je ne sais pas, moi, poursuit-elle. En tout cas, il va vous gâter. Il va vous endormir, il va vous empoisonner. C'est un scénario écrit d'avance, Madame Gerbette. Écrit depuis bien longtemps. La convoitise brûle tout sur son passage. Souvenez-vous, les Borgia, les Agnelli, et plus récemment, les Bettencourt. À l'usine, le chef de Joe me confirme ce que je pressentais. Il avait posé une semaine de vacances et n'était pas venu depuis 4 jours. Il doit rentrer lundi prochain. Tu parles. Tu ne le reverras plus, Joe. Plus personne ne le reverra, ce salaud. Avec 18 millions en poche, il s'est envolé. Disparu, l'oiseau. Il a gratté le dernier E de mon prénom et le chèque a soudain été à son nom. Jocelyne sans E. Jocelyn Gerbette. En 4 jours, il a eu le temps d'aller au fin fond du Brésil, au Canada, de l'Afrique, de la Suisse peut-être. 18 millions, ça met de la distance entre vous et ce que vous abandonnez. Une sacrée distance, impossible à parcourir. Le souvenir de notre baiser 5 jours plus tôt. Je le savais, c'était un dernier baiser. Les femmes pressentent toujours ces choses-là. C'est notre don. Mais je ne m'étais pas écoutée. J'avais joué avec le feu. J'avais voulu croire que Joe et moi, c'était pour toujours. J'avais laissé sa langue caresser la mienne avec cette incroyable douceur, sans oser ce soir-là laisser parler ma peur. J'avais cru qu'après avoir survécu à l'insupportable tristesse de la mort de notre petite fille, après les bières méchantes, les injures, la férocité, les blessures, l'amour brutal, animal, nous étions devenus inséparables, unis, amis. Voilà pourquoi cet argent m'avait effrayée. Voilà pourquoi j'avais tué l'incroyable, retenu l'hystérie. Voilà pourquoi je n'en avais au fond pas voulu. J'avais pensé que si je lui offrais sa Cayenne, il partirait avec elle, roulerait loin, vite, ne reviendrait plus. Réaliser les rêves des autres, c'était prendre le risque de les détruire. Sa voiture, il devait l'acheter lui-même. Au nom de sa fierté, de son misérable orgueil d'homme. Je ne m'étais pas trompée. J'avais pressenti que cet argent serait une menace pour nous deux, qu'il était du feu, du chaos incandescent. Je savais jusque dans ma chair que s'il pouvait faire le bien, cet argent pouvait aussi faire le mal. Daisy Duck avait raison. La convoitise brûle tout sur son passage. Je croyais que mon amour était une digue, un infranchissable barrage. Je n'avais pas osé imaginer que Joe, mon Joe, me volerait, me trahirait, m'abandonnerait, qu'il détruirait ma vie.
L'argent dans le couple, motif de conflit, enjeu de pouvoir. Comme nous l'avons entendu dans le texte lu par Alice, la liste de nos envies, il s'agit vraiment là d'une histoire liée à l'argent dans le couple, mais une forte somme. Mais au quotidien, l'argent dans le couple, c'est aussi un motif de conflit, voire de consultation. Et ce n'est pas quelque chose qui est toujours très très simple à aborder. Juste petit retour en arrière, historiquement, la femme ne possédait rien en son nom propre. C'était à son père, puis à son mari. En 1965, elle a enfin le droit d'avoir un compte bancaire et de signer des chèques. Donc aujourd'hui, la femme travaille, la femme est peut-être indépendante financièrement. Et comment ça se passe dans le couple ? Dans la société, il y a toujours des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Dans le couple, il est encore difficile pour un homme d'accepter que sa femme gagne plus que lui. On est encore un petit peu dans cette ère du patriarcat, même si effectivement les choses ont bien changé et heureusement. Petit détour d'une éthique de l'argent. À quoi sert-il ? Au-delà de sa valeur monétaire, il est symbole de réussite sociale. L'idée, c'est de montrer qu'on en a, ou pas d'ailleurs. Mais si on allait vers une idée de l'éthique de l'argent, on pourrait se dire que l'argent sert à échanger des biens, à produire d'autres biens, à rendre l'autre, les autres heureux, à se faire du bien. Mathieu Ricard, moine philosophe, dit « C'est une énergie puissante qu'il faut réenchanter. Elle contribue alors au bien-être de tous. » Ok, jolie idée. Alors, dans le couple, bon, d'abord il y a l'adage. En amour, on ne compte pas. Tout le monde sait ça. En amour, on ne compte pas. On donne. On se donne. Et pourtant, en fait, on compte. On compte, on regarde surtout ce qu'on nous donne, ce qui est donné, parce que c'est comme si ça nous donnait, ça mesurait notre valeur aux yeux de l'autre. Les beaux cadeaux, les beaux restaurants, c'est effectivement une manière aussi, au-delà du fait de montrer qu'on a de l'argent, de montrer la valeur qu'on donne à l'autre. Il y a des couples où ça ne se passe pas comme ça. J'ai rencontré un couple où ils étaient aux 50 centimes près, dans un 50-50. Chacun vraiment payait de manière équivalente, au point que même au tout début de leur rencontre, ils étaient partis en voyage. Et madame avait beaucoup moins d'argent que lui parce qu'elle était encore étudiante. Et en fait, il lui avait fait signer une reconnaissance de dette. Elle s'était déjà engagée à être dans quelque chose, dans une relation autour de l'argent qui perdure. Hein. C'est encore des choses qu'on a beaucoup accompagnées par rapport à leur couple. L'argent, c'est aussi un contrôle qui est exercé hein, sur l'autre, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu fais de ton argent ? On n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. Comment ça se fait que tu as acheté ça ? Comment ça se fait même que tu m'offres ça ? Il y a un couple là que j'ai reçu pendant très longtemps avec des grosses difficultés autour de cette gestion de l'argent dans le couple, avec chacun des fonctionnements très très différents. J'y reviendrai. Mais elle disait « Pourquoi tu me fais des cadeaux en ce moment alors qu'en fait, on n'a pas d'argent ?» Et lui de dire « C'est pas grave. Si je l'ai fait, c'est que je pouvais le faire. On parle peu d'argent dans la famille. Ça reste quelque chose... Dans la famille, pardon. Dans le couple. Ça reste quelque chose de tabou. Avec en plus de ça, l'idée que si tu me critiques dans ma façon de gérer l'argent, ça veut dire que tu critiques ma famille. Parce qu'effectivement, comme beaucoup, beaucoup de choses de notre vie et de notre vie de couple, nous faisons, nous agissons en fonction de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons vécu dans la famille. Alors, il y a plein d'exemples, bien sûr. L'exemple de la famille où il n'y a pas d'argent, où on manque un peu de tout, où il y a des grosses privations. L'adulte, le parent, ou le chéri ou l'amoureuse, va avoir tendance à dépenser l'argent qu'il va maintenant gagner pour faire des cadeaux, pour ne surtout pas faire vivre à ses enfants ce qu'il a vécu. Il y a un couple comme ça que j'accompagne où monsieur a beaucoup, beaucoup souffert dans son enfance d'un manque d'argent et en plus de privation, même au-delà de l'argent. Et en fait, ses enfants, il les couvre de cadeaux. Ce qui énerve beaucoup madame qui dit qu'il faudrait leur apprendre un peu plus la valeur des choses, que l'argent, le cadeau, c'est une récompense. Voilà, des notions très très différentes et ça les oppose beaucoup dans le couple. Alors en plus de ça, pour simplifier ou complexifier plus exactement les choses, pour pas les simplifier, c'est monsieur qui ramène la totalité ou presque, la totalité presque de l'argent du ménage. Elle travaille en Suisse. Elle travaille un petit quart de temps dans une entreprise française. C'est un choix qu'ils ont fait pour qu'elle puisse avoir du temps pour s'occuper des deux garçons qu'ils ont en commun. Mais voilà, lui a beaucoup de mal à accepter les reproches qu'elle lui fait parce que c'est d'abord son argent qui gagne. C'est le sentiment qu'il en a et surtout ça vient toucher des choses très douloureuses de sa propre enfance. Donc voilà, l'argent c'est ça aussi. À nouveau, c'est cette notion de la valeur qu'on a, la valeur qu'on donne et la façon que l'argent, elle mesure cette valeur. Il y a d'autres situations de couple où l'argent dans la famille était géré de manière très très... rigide, avec on ne dépense pas d'argent tant qu'on n'en a pas, donc on ne fait pas de crédit, sauf voilà, le crédit pour acheter une maison éventuellement, mais pas de crédit à la consommation, et certainement pas de crédit pour se payer des loisirs. Et en fait, dans ce couple, lui est totalement à l'opposé. Pour lui, l'argent, ça sert à se faire plaisir. Quitte à ce que quand on n'en est pas, eh bien, on anticipe qu'on va en avoir. Donc effectivement, on fait un crédit. Un monsieur qui a des rentrées d'argent un petit peu aléatoires aussi liées à son activité professionnelle et qui sait qu'à un moment, il aura. Donc c'est pas grave si à un moment, il a moins. Et en fait, dans ce couple-là, ça crée beaucoup de conflits. Ça crée une insécurité massive de la jeune femme au point qu'elle disait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant avec cet homme-là. Ça, c'est vraiment le sujet qui les avait amenés au départ. Elle ne se sentait pas en sécurité, elle ne se sentait pas en confiance avec monsieur. Donc il y avait tout un climat autour de cet argent et de cette non-confiance. Elle utilisait des mots extrêmement forts pour dépeindre son compagnon. C'était vraiment très, très, très difficile. Et avec eux, j'avais travaillé effectivement autour de cet enjeu de pouvoir, de cette femme qui avait besoin de contrôler quelque chose. Alors, pour elle, pour se sécuriser, certes, mais du coup, qui contrôlait son conjoint. Et lui, c'était très, très compliqué de cette atteinte, parce que du coup, il le vivait vraiment comme une atteinte narcissique, une atteinte de son propre fonctionnement et en plus de l'héritage familial. Ils ont dû beaucoup avancer pour arriver à se retrouver et à imaginer pouvoir fonder une famille.
Qu'est-ce qui mène le monde aujourd'hui? C'est l'argent, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on cherche le plus dans la vie? C'est l'argent, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est bon d'avoir à l'épicerie? C'est l'argent, c'est l'argent. Qu'est-ce qui est bon d'avoir dans son lit? C'est l'amour, c'est l'amour. sentiments.
On tue l'amour, on perd les plus beaux jours.
On court après l'amour, on perd tout son argent.
Pensons, dis donc, on est fou sans bon sens.
Se lève le matin
pour l'argent, pour l'argent.
Pourquoi on se couche le soir?
Pour l'amour, pour l'amour.
On court après l'argent, on perd les sentiments.
On tue l'amour, on perd les plus beaux jours.
Après l'amour, on perd tout son argent.
Pensons-y donc, on est fou sans bon sens.
On court après l'argent, on perd les sentiments.
On tue l'amour, on perd les plus beaux jours.
On court après l'amour, on perd tout son argent.
Pensons-y donc, on est fou sans bon sens.
Ce qui mène le monde aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'amour.
Voilà, j'ai un petit peu parlé de cet héritage familial et puis de cette idée voilà, qu'on ne se parle pas beaucoup dans le couple, on ne se parle pas beaucoup d'argent, alors qu'en fait, l'argent est présent partout. Est-ce qu'il faut être dans une transparence totale? Peut-être pas. La solution que j'ai souvent proposée à des couples, c'est vraiment l'usage, en fait, d'avoir trois comptes. Deux « je » et un « nous », finalement, hein, comme le couple est un compromis entre le « je » et le « nous », enfin, entre deux « je » et un « nous ». L'idée d'avoir deux comptes personnels, un compte commun où est versé, où sont versées les sommes afférentes aux besoins du ménage, de la famille. Alors, il y a des couples qui fonctionnent à nouveau, à l'euro près, hein, c'est-à-dire que c'est moitié-moitié, même si un des deux gagne un peu moins, parce qu'il y a cette idée d'équité. Peut-être que l'idée, c'est plutôt en prorata de ce qu'on gagne. Ça semble effectivement une meilleure équité, mais voilà, pour certains couples, c'est compliqué aussi, cette notion d'équité, de moitié-moitié, de partage, etc. Mais l'idée, voilà, c'est que ce compte commun, il serve à l'ensemble de la famille et du couple, et puis que chacun ait son propre compte, où du coup, bah, il a la gestion totale de ce qui reste sur ce compte. Donc, il peut faire des économies, il peut faire des cadeaux, il peut se faire des cadeaux. Il y a une femme là, que j'accompagne, elle en individuel, qui est dans des grands doutes par rapport à son histoire de couple, qui est plutôt même en souffrance dans son histoire de couple, mais qui est toute loyauté, étriquée dans de la loyauté, et voilà, et noyautée dans de la loyauté par rapport à ce mariage et à ce mari, et à l'héritage familial aussi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de séparation, mais la première étape qu'elle a faite, c'était d'avoir son propre compte. En fait, il gagne à peu près pareil, pas tout à fait, mais à peu près. Et en fait, elle ne supportait plus d'avoir à justifier d'une somme qu'elle allait récupérer sur le compte pour elle, pour s'acheter un sac, aller chez le coiffeur, s'acheter une robe. Et elle a beaucoup réfléchi, elle m'en a parlé, et puis elle a osé en parler à son mari qui, de sa première réaction, c'était de dire « mais il va vraiment pas du tout accepter que je fasse ça parce qu'on l'a jamais fait, parce que ça ne se fait pas, parce que dans un couple on partage tout ». Oui, on partage beaucoup de choses dans un couple, mais peut-être qu'on peut garder aussi peut-être marge de manœuvre et de liberté. Et effectivement, cette femme, elle a fait son compte, et la première fois qu'elle a signé un chèque pour me régler la, l'heure d'entretien, elle m'a dit, voilà, c'est mon propre chéquier, sur mon propre compte, vraiment comme un acte pour le coup d'indépendance. Alors, on voit déjà que dans le couple, l'argent peut apporter des conflits, amener des conflits, être un motif de conflit. Et alors, l'enjeu ultime de l'argent, c'est lors de la séparation. On voit déjà que dans le couple, quand le couple est ensemble, fonctionne plus ou moins bien, mais fonctionne en tout cas, partage encore des choses, des projets, des envies, une vie ensemble, l'argent peut devenir un motif de conflit et un enjeu de pouvoir. Et alors, au moment de la séparation, là pour le coup, l'argent, ça devient un ultime enjeu. Alors, il y a aussi les enfants, parfois malheureusement, hein, qui deviennent un enjeu à la séparation. Mais l'argent, c'est très 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 classique, contient l'autre avec cette histoire d'argent. Des divorces du coup qui ne se règlent pas, qui mettent des années à se régler. Parfois même, le couple ne vient plus ensemble depuis très 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 longtemps. Mais l'argent n'est toujours pas soldé, il y a toujours de l'argent qui dort, qui traîne chez un notaire, et les juges n'ont pas réussi à trancher parce que les avocats ont tout intérêt aussi peut-être à faire traîner les choses, mais c'est quand même une façon de garder le lien. Je me rappelle d'un père, hein, puisque du coup c'était dans le cadre de la protection de l'enfance, donc voilà, j'avais en face de moi un homme certes, mais du coup je m'adressais plutôt à un père qui me disait, en parlant de son ex-femme, « Elle me doit tout, je lui ai tout donné, elle n'était rien. » Ils étaient dans un conflit de dingue, alors pour le coup l'enjeu était les enfants, mais l'enjeu était aussi l'argent. Donc moi je ne parlais pas d'argent à ce moment-là, j'étais pas dans cette position de conseillère conjugale thérapeute de couple. J'étais éducatrice spécialisée à la protection de l'enfance, donc je me positionnais du côté des enfants et du côté du coup de la mère des enfants qu'ils avaient eu ensemble. Mais voilà, c'était très très, quand il disait ça, c'était vraiment très très fort. Hein. Elle me doit tout, je lui ai tout donné, elle n'était rien. Bien évidemment qu'il parlait peut-être de l'amour qu'il lui avait donné, mais il parlait surtout de toute cette valeur monétaire qu'il lui avait aussi, qu'il lui avait octroyée. Dans les divorces aussi, il y a cette notion de la pension compensatoire. Alors la pension compensatoire, hein, je le rappelle, ça n'a rien à voir avec la pension alimentaire. La pension alimentaire, elle est pour pourvoir à l'éducation et aux besoins des enfants que le couple a eu ensemble. La prestation compensatoire, elle est versée par un des deux membres du couple lorsqu'il y a eu une grande différence de salaire du temps de la vie commune, voire lorsque dans un couple, le choix avait été fait que madame ne travaille pas, s'occupe des enfants, et au moment du divorce, eh bien madame peut avoir droit effectivement à une pension compensatoire parce qu'elle se retrouverait autrement dans une situation financière, personnelle très très difficile. Et puis l'idée du mot compensatoire, c'est vraiment comme si effectivement on compensait un manque à gagner. Et en fait l'idée c'est que ça rappelle l'engagement qui a été pris, soit par le mari, hein, du coup d'accepter qu'il y ait ce déséquilibre, que voilà, madame se soit un peu sacrifiée pour la carrière de son époux. La pension alimentaire, c'est autre chose. Parfois, dans les couples, c'est quelque chose qui devient aussi un enjeu. Puisque tu veux te séparer, de toute façon, ne crois pas que je vais te verser une pension alimentaire. C'est pas pour aller faire la belle que je vais te verser de l'argent, etc. Des propos qu'on entend parfois, hein, apportés par des femmes, en particulier des femmes pour lesquelles il y a des séparations très très difficiles. On n'est pas dans l'accord à l'amiable, hein, on est parfois même dans des situations de violence où la femme arrive à divorcer. Et avec malheureusement, hein, au détriment des enfants, des hommes qui ne vont plus verser d'argent à leur mère, donc à leur ex-épouse ou à leur ex-femme, mais c'est au détriment des enfants. Et voilà. Et donc, cette notion d'argent, c'est vraiment un peu, à ce moment-là, du coup, le nerf de la guerre. Françoise Sagan, que je cite dans, sur mon site et sur ma carte de visite, où elle dit pour le coup une phrase qui est « plus que d'aimer, il est important de comprendre ». J'étais assez d'accord avec elle. Là, elle dit, elle a cité à un moment, elle a écrit, elle a dit cette phrase « il est plus urgent de vivre que de compter ». Oui, c'est vrai que vivre c'est chouette, compter c'est un petit côté un petit peu désagréable, et puis je vous le rappelle, en amour on ne compte pas, et en même temps, on voit bien que l'argent est plus qu'une valeur numéraire, hein. J'ai essayé de le montrer, que c'est aussi la valeur qu'on donne à l'autre, ou qu'on pense avoir à ses yeux, et puis quand on se sépare, eh bien, il y a encore plus de difficultés liées à cet argent quand ça n'a pas été pu être clairement parlé avant. Je vous rappelle le chiffre de 40% des couples ne discutent jamais d'argent dans le couple. Donc voilà, c'est quand même assez ahurissant. Et puis c'est la cinquième cause de séparation, certes après... l'infidélité, la violence et le manque d'intimité et de communication, mais quand même, c'est régulièrement un motif de séparation. Alors peut-être que dans un couple, quand les conflits apparaissent par rapport à cet argent, il est peut-être important de pouvoir consulter. Il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de séances avec un conseiller conjugal et familial ou thérapeute de couple, mais on voit quand même que parfois l'enjeu est au-delà de la simple notion d'argent, qui déjà n'est pas une notion très très simple.
La vie en rose, oui, mais pas que. Une émission de Radio Alto à retrouver en podcast sur le site radioalto.info.